EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cet enseignement que le Seigneur donne tous les jours, non pas à notre tête, mais à notre cœur, pour que nous devenions des disciples de Jésus-Christ, mûrs, qui ressemblent réellement à leur maître. Ça va faire maintenant la deuxième semaine que nous nous sommes concentrés sur ce sujet appelé « Devenir des guerriers dans le combat spirituel ». On apprend tout plein de choses au sujet du combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette question. Existe-t-il réellement des règles dans le combat spirituel? C'est un combat. Il doit y avoir des règles, il doit y avoir des vérités que l'on doit connaître pour savoir comment ça fonctionne. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble découvrir ces règles qui régissent le combat entre les deux royaumes, et en particulier dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Je ne cesse de nous rappeler que lorsqu'il y est question de guerre, question de combat entre les deux royaumes, il y a d'abord l'affaire de deux camps en opposition. Il y a certainement les armes et il y a le lieu où a lieu, je devrais dire, ce combat. Et il y a aussi les règles et enfin l'arbitre. Mais les lieux où a lieu ce combat, on en a parlé. Qui est l'adversaire? On en a parlé. Maintenant, les armes qui sont utilisées, on en a parlé. Maintenant, on veut parler des règles. S'il en existe, quelles seraient des règles? Vous savez bien qu'en ce peu de temps, il serait presque impossible que vous et moi puissions parler de toutes les règles qui puissent exister dans la Bible. Mais aujourd'hui, permettez-moi de partager trois grandes règles importantes que vous devez absolument savoir dans votre vie de gagnant et de vainqueur dans le combat spirituel. Voici la première règle. C'est la règle de la cause de la malédiction. La cause de la malédiction. Qu'est-ce qu'est la malédiction? La malédiction est l'inverse de la bénédiction. La malédiction n'existe pas par elle-même. C'est l'inverse de la malédiction et n'arrive qu'avec une cause. La malédiction n'est pas une chose que l'ennemi a créée. Ce n'est pas Satan qui a créé la malédiction. Non, non, non. C'est Dieu qui a créé la malédiction. La première personne dans la Bible à maudire quelqu'un, c'est Dieu. Dieu a créé la malédiction comme étant l'inverse de la bénédiction, le conséquence de notre échec ou de notre péché, devrais-je dire. La malédiction, c'est le côté négatif de la bénédiction. Si la bénédiction a dit prospérité, bonté, la malédiction, c'est juste l'inverse de tout ça qui veut dire disette, manque. Donc, l'ennemi n'a pas eu besoin de créer cette chose-là parce que la malédiction a le même pouvoir de la bénédiction. Quand elle t'est donnée, elle t'est donnée. C'est parti, tu l'as. Alors, Satan n'ayant pas de pouvoir à s'imposer de la même manière dans la vie des hommes, il veut se rassurer que nous tombions dans la malédiction parce qu'elle sera une prison divine plus forte que lui. Si le diable, mes frères, devrait lui-même inventer et créer et faire exister la malédiction, la vie des êtres humains serait juste invivable et impossible. Alors, le problème avec la malédiction, c'est que la malédiction fonctionne avec une cause. Donc, le diable fait de son mieux pour créer une cause, te pousser vers une cause qui va te mettre en disgrâce. C'est-à-dire qu'il va te mettre loin de la faveur de Dieu, loin de la bénédiction de Dieu, pour que tu entres dans l'autre domaine que Dieu a appelé malédiction. Dieu n'a même pas besoin de te voir en particulier, de voir ce que tu as fait, te dit « je te maudis ». Non, il est clair, il a dit « j'ai mis devant toi deux voies ». La bénédiction si tu fais ABCD et la malédiction si tu fais ABCD. Il ne te maudit pas. La malédiction, elle est directement là comme la conséquence de ton choix. C'est en fait ça ce que ça signifie. Alors l'ennemi, ce qu'il veut, c'est te séduire vers le choix qui au début apparaît bien pour toi. mais qui en réalité te met dans le camp de la malédiction, du mauvais choix. Le mauvais choix que tu aurais fait peut causer autant de mal. Ce qui signifie que dans le combat spirituel, l'ennemi veut te voir dans la malédiction pour te faire souffrir. La malédiction de ta famille. Il y a des autres personnes dans d'autres générations avant nous qui ont fait ce mauvais choix de s'éloigner de Dieu et de s'associer au diable. Et ils ont pris toute la famille, ils l'ont placée sous une mauvaise ombre. Ils l'ont mis comme ça dans une malédiction. C'est pour cette raison qu'on ressent de fois que la malédiction est une chose très difficile à combattre. J'ai entendu beaucoup de gens dire « Non, frère, dans le combat spirituel, la malédiction, pour détruire la malédiction, c'est très difficile. » C'est parce que la malédiction, ce n'est pas un démon. La malédiction, ce n'est pas un esprit. La malédiction, c'est un secteur dans lequel une personne est allée se trouver. Et qui a créé ça? C'est Dieu. Et lorsque vous commencez à vous éloigner donc du secteur où Dieu vous a placé, vous allez vous-même mettre donner vos bras sous les liens de la malédiction. Vous êtes dans quelque chose de si divin que seul Dieu a le pouvoir de le détruire. C'est si complexe que Dieu n'élève pas seulement la malédiction. Quand il envoie la malédiction, quand la malédiction est activée du côté divin et que la malédiction est sur le terrain, il faut absolument une intervention au niveau du terrain, là sur la terre, pour pouvoir arrêter la malédiction. On va lire quelques textes. Nombre chapitre 5, versets 20 à 22. Mais si étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre et que ces eaux qui apportent la malédiction entre dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira « Amen ». Ça, c'est des imprécations. Ce ne sont pas des sorciers qui font ça. C'est l'homme de Dieu, le sacrificateur. Dieu a donné cet ordre pour qu'il place des imprécations, qu'il place des malédictions sur le peuple. Il n'est pas en train de maudire cette femme. Il n'est pas en train de maudire cette femme. La Bible lui demande de placer une malédiction. Dieu lui demande dans la Bible de placer une malédiction sur une catégorie des faits. Il dit, voici si cette femme, justement, est infidèle, donc elle sera tombée à l'extérieur de la loi, à l'extérieur de ce qui est prévu par Dieu. Voici les conséquences, une fois on y tombe. Et même la femme dit, amen, on jure. Au moment où on jure fidélité au bien, en se disant, si donc je fais le contraire, voici les conséquences qui vont s'en suivre. Frères et sœurs, vous devez savoir que pour l'ennemi, c'est très important qu'il y ait une cause derrière pour que rapidement la malédiction s'attache à toi. Autant la bénédiction est comme un sceau qui vient sur ton visage, qui fait que les portes s'ouvrent en faveur, autant la malédiction est comme un sceau qui est sur ton visage, qui montre à tous ceux qui te veulent du mal qu'ils ont un droit sur toi. Vous vous souvenez de ce que Caïn a dit à Dieu? Il dit, mais là, tu me choisis devant toi. Si quelqu'un me voit, je risque de me détruire. Dieu a dit non, Caïn sera vengé cette fois. Il sait qu'il n'est plus le même, que le Seigneur a mis sur lui, qu'une parole a été prononcée sur lui et tout le monde le verra. Quand tu as la malédiction sur toi, tu deviens fragile à l'ennemi. Le problème avec la malédiction, c'est que la malédiction est aussi transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'elle peut se communiquer d'une génération à une autre. Les parents peuvent avoir fait alliance ou les parents peuvent avoir mis la famille sous l'ombre de quelque chose et une autre génération qui vient après subit les mêmes effets. C'est pourquoi que sur la croix, mes amis, c'est pour cette raison-là que Jésus a reçu sur nous. Il a reçu sur lui, la Bible dit, il a porté sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu, une fois que malédiction est sur la terre, je répète, il n'essaie pas de retirer malédiction comme ça. Non, La règle pour arrêter la malédiction lorsqu'elle est sur la terre, la règle biblique, c'est l'effusion du sang, c'est le sacrifice. Je vous donne deux exemples qui vont bien vous rafraîchir la mémoire. Dans le livre de Chroniques, vous vous souvenez, en Chroniques chapitre 21, il arrive que David, voilà, il prend cette folie de faire le dénombrement excité par Satan. Tout commence par là. La Bible dit, Satan s'éleva contre Israël, incitant David à faire le dénombrement. N'oubliez pas, à l'origine, pour que Dieu se mette à frapper, celui qui a incité le diable, qui a incité plutôt David, c'est Satan. Satan dit ceci, « Je veux avoir David, mais le coin où je peux le mieux avoir, c'est quand il sort de la faveur de Dieu. » Là, c'est ça les règles de combat. C'est lui qui te fait faire la cause vers la malédiction, te fragilise. Quand tu es dans la cause, tu deviens fragile à la malédiction. Je vais répéter. Quand tu es dans la cause, tu deviens fragile à la malédiction et fragile aux attaques du diable. Et donc, c'est ce que le diable fait. Il en lance la cause, yup, David attrape. Ah, mais David, tu sais, tu es un grand roi, quand même. Tu as beaucoup de gens, tu en as combien déjà? Les idées viennent dans la tête de David et David oublie que ce n'est pas lui le berger du peuple, que c'est l'Éternel qui est le berger. Boum! Dieu est fâché. Le diable sait que s'il change à Dieu d'attitude vis-à-vis de toi, toi, tu deviens fragile. Dieu est fâché contre David, qu'est-ce qu'il dit? Bah, c'est à toi maintenant appartient le peuple. Le général de David lui a pourtant refusé, ça a dit non! Mais David, pourquoi tu as besoin de ça? Il savait que c'était une mauvaise chose à faire. Lorsque Dieu a envoyé l'ange pour détruire, l'ange a commencé à détruire, à tuer. Il fallait retirer l'ange. Écoute ce que Dieu dit. Au lieu de dire juste, ça suffit, reviens. Non. Comme il en était à l'époque en Égypte, la seule chose qui pouvait empêcher à l'ange de pouvoir toucher où que ce soit, c'était le sacrifice. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, le prophète vient. Dieu a pardonné, c'est bon, il veut arrêter. Au lieu juste de dire à l'ange, reviens, il envoie le prophète. Le prophète vient voir David, il lui dit, écoute, voilà l'instruction divine. On va aller du côté où vient l'ange de la destruction, à l'aire d'Ornan. Ornan, un homme qui avait son aire, un genre de grand champ. Il dit, on va aller là-bas et on va offrir un sacrifice. David arrive. Ornan voit que c'est le roi, bien sûr, il dit, on a besoin de ton champ, on a besoin de cet endroit, il faut offrir un sacrifice. Il dit, oui, allez-y, prenez-le. C'est là que se trouve cette fameuse phrase qu'on répète souvent à l'église. David lui dit, je ne peux pas offrir à Dieu une chose qui est gratuite, je dois en payer le prix. Et heureusement pour lui, il a payé le prix pour ça, il a acheté cet endroit et il y a offert un sacrifice. Et cet endroit est devenu comme une ligne toute tracée, qui a fait que l'ange qui était en train de détruire arrivait en ayant vu le signe, poum, et s'est arrêté. Exactement comme à l'époque de Moïse, l'ange qui était en train de détruire dans les maisons des Israélites, depuis tôt dans les maisons des Égyptiens, quand il arrivait devant une maison d'Israélites, il n'y touchait pas. La Bible dit, il passait outre. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix, pour que nous fêtions ce que nous appelons aujourd'hui la Pâque, la fête où la malédiction passe outre. Quand ça arrive à ton tour, ça voit qu'il y a un sang qui a été versé pour toi, qui se tient sur le linteau de ta porte, boum, ça passe outre. C'est ça la grande règle à la malédiction. Même lorsqu'il y avait une cause, si le prix du sang est payé, ce sang est fort et parle plus fort lorsque la malédiction arrive. Elle ne touche pas. Proverbe chapitre 26, verset 2 dit, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Il dit, « Comme un oiseau, comme ça, un moineau qui vole, qui était là et qui, hup, donc c'est pour dire aussi volatile que ça puisse être. » Il dit, quand il n'y a pas de raison, on ne peut pas te maudire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la raison. Et sachez-le très bien que dans le combat spirituel, le diable vise vous amener jusqu'à la malédiction. L'envoûtement, l'oppression, tout ce qui vous fait subir, sa finalité, ce qui lui ferait du bien, ce qui lui ferait se ressentir qu'il atteint les buts, c'est quand vous fera tomber dans la malédiction. Pourquoi? Parce que dans la malédiction, c'est votre père qui vous punit, en fait. Et pour lui, le plus grand plaisir, c'est que l'homme soit puni par Dieu lui-même qui en est le juge. C'est pourquoi il s'appelle accusateur. Ce n'est pas parce qu'il amène la punition, parce qu'il vient à la cour pour que le juge qui fait dire la loi vous punisse. Le diable n'a pas de cour pour vous punir. Le diable n'a pas sa propre cour pour prononcer sa sentence. Il doit vous trouver un moyen de créer une cause pour que ça donne de la sentence. Ça lui donne le droit de prononcer une sentence. Lorsqu'un avocat vient pour un avocat d'une partie, vient et qu'il est en train de parler pour qu'on puisse vous emprisonner pour 10 ans, 20 ans de prison, c'est pas lui qui invente cette sentence. C'est lié à la gravité de votre problème. Alors quand le diable te veut 20 ans de prison, il veut se rassurer que tu as commis ça. Gloire soit rendue à Dieu à cause de Jésus-Christ, que lui est allé mort à la croix pour nous, pour que là où la cause que nous avons faite devait attirer malédiction sur nous, la malédiction est tombée sur lui. Mais il accorde ça seulement à ceux qui croient, qui savent qu'il l'a fait pour eux. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, il n'y a pas d'abri dans ce combat. Il n'y a pas de troisième camp. Il n'y a que deux camps. Soit tu es avec Christ, soit tu es perdu quelque part et tu as besoin de Jésus-Christ. Frère, je répète la règle de la cause. Faites attention. L'ennemi cherchera toujours une cause parce que la cause amène la malédiction. C'est comme ça que les gens sont allés, un membre de la famille, une personne importante qui tient la destinée de la famille, s'en est allé se mélanger avec de l'occultisme, s'en est allé se mélanger avec des fétiches, s'en est allé s'associer à des choses qui sont des grosses portes d'entrée. Et je vais expliquer ça tout à l'heure. Il y a aussi ce qu'on appelle l'esclavage du péché. Jean chapitre 8, verset 34 dit, « en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Le péché fragilise le chrétien dans le combat spirituel. Quand tu te mêles d'une vie de péché, ne pense pas que tu es le même. Je ne suis pas en train de dire que lorsque tu as commis un péché, tout de suite, toute la couverture de la grâce de Dieu s'en va loin de toi. Non, non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que quand tu te mènes dans une vie de péché, quoi qu'enfant de Dieu, tu commences à vivre de façon charnelle, sache que tu es en train de te rendre esclave. Pas de Satan encore, mais du péché. Mais souvenez-vous, le diable, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu sois en telle position de fragilité vis-à-vis de Dieu. Ainsi, il peut t'atteindre facilement. Alors, une règle importante, c'est la règle de l'esclavage du péché. Dans le combat spirituel, rassurez-vous, mon frère. Quand vous voulez être bon dans le combat spirituel, rassurez-vous. Faites de votre mieux d'obtenir victoire sur des péchés et d'en être jamais en devenir esclave. Troisièmement, ça s'appelle la règle de l'héritage familial. Ça signifie que dans le combat spirituel, une chose que quelqu'un peut faire, qui est un parent, un ancêtre, un point de départ, ce que vous avez fait, pouvez le léguer à vos enfants. Et l'ennemi peut se mettre à suivre comme ça, par une séquence qu'il y a dans les sangs et les passages héréditaires du sang. Certains ont utilisé le terme « le lien de sang ». Et l'ennemi se met à suivre cela. Jérémie chapitre 32, verset 18 dit, « Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Tu punis l'iniquité des pères dans les seins de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est éternel des armées. » Comme je vous l'ai expliqué au début, la malédiction vient de Dieu. Et la Bible est en train de montrer comment ça passe d'une génération à une autre. D'une personne à une autre. Mon frère, ma sœur, ne te mets pas dans des choses qui vont rendre la vie de tes enfants difficile. Vous voulez, peut-être qu'on ne devrait pas parler spirituel. Parlons psychologie ou parlons comportement. Les études ont montré, un enfant dont le père ou les parents mère ou père, et d'une certaine vie d'alcoolisme, c'était peut-être un tueur en série. La suite va te montrer que dans les différentes générations qui vont venir dans sa vie, dans la vie de cette personne, vous allez retrouver cette séquence se multiplier. C'est soit un héritage qu'il a reçu dans le sang, soit un héritage qu'il a reçu par le conditionnement de l'endroit où il était en train de vivre. On hérite comme ça, d'une personne à une autre. Alors c'est pour ça qu'il est très important, mon frère, ma sœur, vous qui m'écoutiez aujourd'hui, que vous puissiez vous débrancher de votre héritage, quel qu'il soit. Puissiez vous rebrancher à un autre héritage. Moi, j'aime quand la Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la volonté de la chair ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. » On a reçu le pouvoir de devenir plus enfants de nos parents, plus enfants de nos arrière-parents, mais enfants de Dieu. Non pas parce que quelqu'un a voulu nous amener au monde, mais parce que Dieu, lui, a décidé que nous puissions venir au monde. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez remarqué dans votre hérédité. Quelles sont les séquences qui se répètent? Quelqu'un s'est éloigné du Seigneur au point d'aller, il est tombé dans les choses qui constituent la malédiction. Il s'est associé à des choses spirituelles et il a développé certaines choses. Je ne sais pas, ça va au-delà de l'hérédité. Quelque chose est en train de consumer votre famille et ça vient d'ailleurs, ça vient de loin. Ça vient de quelqu'un qui a commencé ça. Voici la bonne nouvelle. Il est possible de s'en débarrasser, de s'en détacher pour toujours, d'être de la même famille, mais n'ayant rien de commun dans ce domaine-là, parce que vous avez été racheté par le précieux sang de Jésus-Christ. Mais faites attention, dans le combat spirituel, il existe la règle de l'hérédité, de l'héritage familial. Quatrièmement, les portes d'entrée. Il existe la règle des portes d'entrée, c'est-à-dire une absence de maîtrise de soi qui entraîne des débordements émotionnels persistants. C'est-à-dire tu manques la maîtrise de soi, ça fait des débordements d'émotions comme ça, là, des débordements émotionnels persistants. Tu ouvres de cette manière, par cette pratique, par ce que tu as fait, par comment tu l'as fait, tu donnes une opportunité au diable et la Bible aime dire que tu donnes accès, tu ouvres une porte à Satan. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Éphésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Paul parle aux Éphésiens et leur dit, écoutez, quand il vous arrive de vous énerver, vous avez d'avoir des problèmes comme ça, ne gardez pas ce ressentiment parce que vous êtes en train de donner une opportunité à Satan d'agir au milieu de vous et de vous détruire. Mon frère, ma sœur, il est possible que nos murs bien barricadés dans le nom de Jésus contre les attaques du diable, nous allions nous-mêmes avec le poignet intérieur ouvrir la porte et laisser l'adversaire entrer. Comment? Juste parce qu'on a manqué de bien gérer sa vie émotionnelle et sa vie sentimentale. C'est pourquoi je ne cesse pas de vous dire que le combat spirituel, c'est pas ça une dimension psychosociale. Quand vous énerve, qu'on crie, que vous fassiez quoi que ce soit, sachez mettre vos émotions sous contrôle. Et je l'ai déjà dit dans l'une des émissions, exceptionnel combien était Jésus, qui s'effâche, qui s'énerve, qui tient entre ses mains le fouet et qui se met à frapper, après avoir fini de frapper, étonnant, après avoir chassé les gens, étonnant, la minute qui suit, on lui amena les malades et il les guérit. Il a su exprimer le cœur de Dieu même dans ses émotions. Ça peut vous avoir semblé être un sentiment quand même assez négatif. Il s'est fâché, il s'est énervé. Mais il s'est énervé de la sainte colère, de la bonne façon. Frères et sœurs, nous pouvons exprimer nos émotions, mais nous ne devons pas y mettre à l'intérieur une mauvaise motivation. Si tu es indigné, tu exprimes ton indignation, mais pas avec objectif de nuire. Chaque fois que vous gardez ce type de ressentiment longtemps, vous demeurez dans ça. Les diables se frottent les mains. Ouais, c'est bien. Ouais, continue. Et ils t'encouragent dans ça. Et tu es aveuglé, obnubilé par ta colère. Oui, comment ils ont pu... Tout le temps que tu fais là, un jour, deux, la Bible dit juste pour une nuit, hein? Un, trois, quatre, une semaine où les ressentiments... Ça peut être un moment de distraction, le diable. Là. Ouh! À juste trouver un moyen d'entrer et de commencer à détruire ta vie. De quoi avons-nous parlé? Nous avons parlé aujourd'hui des quatre règles importantes à retenir dans le combat spirituel. La première, la règle de la cause de la malédiction. Le diable voudrait toujours que vous soyez dans une malédiction pour qu'il puisse avoir plus de pouvoir, plus d'autorité pour manipuler votre vie. Nous avons aussi deuxièmement parlé de la règle de l'esclavage du péché. Quand tu deviens esclave du péché, tu te fragilises davantage. Nous avons parlé de la règle de l'héritage familial. Un acte peut avoir été posé par quelqu'un d'autre, mais les conséquences être vécues par d'autres. Et nous avons parlé aussi de la règle des portes d'entrée. Vous venez de comprendre ces règles. Le but, c'est que vous ne puissiez pas vivre dans cette vie. Le message, c'est que quel que soit ce qui s'est fait, quelle que soit la manière dont vous n'avez pas respecté les règles, Jésus peut vous redonner la victoire. Laissez-moi prier avec vous. Père, merci pour la grâce que nous avons en Christ, pour l'œuvre qu'elle a accomplie à Golgotha. Te bénissons parce que, au-delà de tout ce que nous puissions imaginer, Jésus-Christ est allé droit à notre place, est mort pour que la colère et la malédiction tombent sur lui. De fond, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Or, ça voulait dire qu'il nous mettait hors d'état d'atteinte. Il voulait nous protéger en subissant cela en notre faveur. Alors, je refuse que ma vie soit encore exposée à l'ennemi pendant que Jésus a payé le prix pour moi. Que cette victoire soit une réalité au quotidien, au nom de Jésus. Amen. Alors, Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.